Salut les smarts, salut les marques et bienvenue dans Catch Up. Je suis Eric Side et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, SmackDown, Monday Night Raw, NXT. Et un jour, on vous promet aussi d'autres choses comme par exemple AEW, Dynamite. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un show historique. Friday Night SmackDown, le premier épisode, c'est fini, SmackDown Live, on arrive sur Fox TV. Explosion de nouveautés, ou alors grosse déception, à voir. On va voir ça avec mon compagnon de cette journée, l'inimitable homme fort de Catch-Up. Chris, comment ça va Chris ?
Salut Ringside, salut peuple Catch-Up, bienvenue dans le monde du merveilleux du show bleu et c'est... truc de fou quand même ce passage sur la Fox là. Rien que sur les ratings déjà, c'est assez surprenant. On aura l'occasion d'en reparler.
Exactement. C'est pas rien ce passage sur Fox, hein, puisque oui, voilà, pour parler des ratings, on a déjà une exposition qui est plus importante que ce qu'il y avait jusqu'ici. C'était le USA Network, je crois, SmackDown jusqu'ici.
C'est ça, ouais.
Donc là, on passe au vendredi. Hein, c'est pour ça qu'on a cette analyse là qui tombe le week-end. Et alors d'après mes chiffres, on est à 3,8 millions de spectateurs. Ils ont pris 2 millions quoi.
Bah ouais.
Tout simplement, comme ça, on a claquement de doigts.
En termes d'audimat, c'est quand même beaucoup rêverait de ce genre de ce genre d'exposition et ce genre d'explosion des ratings quoi.
C'est ça, exactement. Alors, ils avaient mis le paquet, la Fox. Hein. Il y avait un kick-off que je n'ai pas regardé. Je ne sais pas si tu as regardé, toi, en ouverture de show. Voilà, ils font venir un petit peu les présentateurs de Fox TV aussi, hein, qui sont mélangés un petit peu aux habitués de la WWE.
Ouais, les présentateurs de la NFL en particulier.
Assez, voilà.
Assez étonnamment, d'ailleurs.
C'est ça, ils sont... Voilà, on essaye de mixer le truc un petit peu avec les ce qu'on va dire, le vrai sport, hein, en parallèle, qui est quand même assez présent sur Fox TV. Ouais, c'est un petit peu comme si on passait d'M6 à TF1, je pense, si on devait faire un comparatif. Donc voilà, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien ce SmackDown. Et bien, on va voir ce qui s'est passé un petit peu dans le détail. Alors déjà, nouveau décor. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce nouveau décor, Chris ?
Ouais, nouveau décor, nouvel habillage.
Nouveau générique,
quelques changements d'angle aussi au niveau des caméras, etc. Enfin, là, au niveau des prises de vue, tout ça, il y a un espèce d'une espèce de changement. C'est globalement, c'est assez spectaculaire, hein, le retour de la pyro. Ils ont mis quand même vraiment le paquet, quoi.
C'est ça, des feux d'artifice, AC/DC au générique, avec un générique un peu
plus long. AC/DC, incroyable, shoot the drill, incroyable, AC/DC qui est mis au générique de SmackDown. Bah écoute, voilà, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.
C'est ça, ça nous change un peu de leur musique de merde là, qu'on se tapait depuis quand même une petite décennie, hein, donc ça c'est pas plus mal. Le nouveau décor il est assez spectaculaire, les feux d'artifice sont de retour. Et on va démarrer le show avec Vince McMahon et Stephanie McMahon. Allez, on va jouer dans les classiques qui nous accueillent. On s'attend à un segment, mais pas du tout. Hein. Ils sont juste là pour nous accueillir, nous dire bienvenue à SmackDown. Et on a un fondu en noir et on revient avec le début du show et Becky Lynch qui débarque. La championne de Monday Night Raw, du coup, qui arrive au ring, qui nous raconte un petit peu ses motivations, tout ça, mais elle est vite interrompue par le roi fraîchement couronné King Corbin qui débarque, qui vient se la raconter un peu, hein, évidemment, parce que c'est lui le roi désormais, il a gagné le King of the Ring. Il est très vite également interrompu par l'énorme star à la fois de la WWE et d'Hollywood, The Rock, Dwayne Johnson, qui débarque, la foule est en furie. C'est le feu dans l'arène. On est au Staples Center, hein, ça j'en ai pas parlé. On aime bien dire où on est à chaque fois. C'était Los Angeles. Hein. Donc voilà, Staples Center en furie quand le Rock débarque. Et on est parti pour une promo classique du Rock où il va tourner en ridicule et pourrir le bon baron Corbin. Il va le traiter de Burger King, Hein, on va se moquer aussi un petit peu de ses attributs virils. On a le mot testicule quand même, hein, qui est prononcé dans cette promo. On voit que sur la Fox, ils vont peut-être aller un petit peu plus loin au niveau du langage un peu châtié, etc., etc., qu'on va rester un petit peu sur la lignée qu'on a eue ces dernières semaines. On va peut-être moins traîner dans l'émission pour les moins de 12 ans, quoi. On vise un petit peu un public un peu plus adulte, entre guillemets, bon, via des blagues un peu grasses, mais c'est un peu ça aussi, la WWE. Donc voilà, le bon Baron se fait pourrir par le Rock, qui sort toutes ses catchphrases. Et puis finalement, il va évidemment se faire passer à tabac, hein, Baron Corbin. Je ne sais pas si tu veux aller dans le détail des blagues qui ont été sorties ou...
Non, parce que c'était pauvre. De toute façon, on nous a parlé des testicules de Baron Corbin.
Voilà, on le traite de... Comment
des MST, une MST, enfin bref. C'était... Pour une promo avec la plus grande star mainstream de l'histoire de la WWE et peut-être tout simplement de l'histoire du catch, personnellement, j'ai trouvé le segment assez pauvre. Et il était fort parce qu'il y avait du star power, parce qu'il y avait, parce qu'il y avait Becky. Bon, le baron, on va le mettre un peu de côté. Mais globalement, je ne peux pas te dire que ce segment d'ouverture m'a transporté, quoi. C'était surtout, voilà, vraiment le niveau de la promo était vraiment faiblard. Et comme tu l'as dit, voilà, le Rock était là pour balancer toutes ces catchphrases par million and million and million.
Voilà, toutes ces phrases habituelles là qui électrisent la foule, hein, soyons clairs. Et puis mettre un petit peu over Becky Lynch, hein, comme on dit, c'est-à-dire.
Le public était à fond, hein, à fond derrière le Rock, à fond derrière Becky, la bonne hit qu'il faut pour le Baron, bref, il y avait tout ce qu'il faut, quoi.
C'est ça, parce que le Baron, il fait réagir aussi dans le sens où tout le monde le eut. C'est le personnage idéal pour ce petit segment, qui volait pas très haut, mais qui a mis l'ambiance pendant la foule, quoi, qui était con. De toute façon, les gens étaient heureux de voir The Rock débarquer, c'est pas toutes les semaines qu'il arrive. Hein. Mais c'est sûr que, pour les habitués, bah, hormis la présence du Rock, c'était pas non plus le segment le plus foufou de l'année.
Ouais, heureusement qu'à la fin, il passe le mouvement le plus électrifiant de l'histoire de la WWE depuis la mort de Claude François.
C'est ça.
Et heureusement qu'il place un Rock Bottom quand même, quoi. Quand même, quoi. Un peu d'interaction physique, quoi.
Voilà, c'est ça.
Il est bien, hein, physiquement, hein, le Rock, hein, toujours. Hein. On voit que Hollywood, ça lui réussit. Et je me demande ce qu'il donnerait encore sur un match. C'était pas un catcheur entre les cordes phénoménal, quoi. C'était un. Mais je serais curieux de savoir à l'âge qu'il a là maintenant ce qu'il peut bien valoir sur un match complet, s'il en est encore capable de tenir un match complet, le Rock.
Oh ben on verra sûrement ça en Arabie Saoudite un de ces jours.
Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, juste pour finir là-dessus, sur ce segment, je ne sais pas ce que tu en penses quand même, mais Becky, c'est la championne d'Euro, quoi.
Oui.
On est à SmackDown, donc la championne de SmackDown n'existe pas sur ce segment. Et on peut se demander si ça n'augure pas d'un draft de Becky.
Attends, parce qu'il y a une championne à SmackDown.
Ouais, oui, c'est vrai.
Je sais pas de quoi tu parles. ouais, non, visiblement, ça, ils l'ont pas très bien géré, hein, les changements de ceinture, etc., là, avant le grand départ sur la Fox. Mais il y a la draft qui s'annonce. Hein. Peut-être que tout ça va être réglé. Et on se demande si au niveau du générique, est-ce que ça spoil la draft ? Parce qu'on voit quand même, il y a beaucoup de catcheurs qui sont présents dans le générique, qui ont l'air de faire partie du roster. S'ils doivent refaire le générique avec un nouveau, avec un nouveau roster, du coup, hein, une nouvelle écurie, ça paraît un peu bizarre. Mais bon, on verra ça.
Ouais, je sais pas, ils veulent tellement faire dans le clinquant, là, ils veulent tellement que ça pète, que peut-être que le générique, ouais, n'est pas si annonciateur que ça, si tu veux. Je crois que c'est surtout qu'il fallait en mettre plein les yeux, plein la tête, là. Hein. Donc,
ouais.
Je pense que c'est plus lié à ça. Parce que, effectivement, si on se basait uniquement sur le générique avec les top stars présentes dedans, si SmackDown c'était ça, le roster de SmackDown, ça serait assez hallucinant. Hein, parce que,
ouais,
il n'y a plus personne à Rome. Aaron va se retrouver avec.
Avec
Kurt Hawkins et la B-Team.
Ça va être fort sur, sur, C'est du côté de Chiro. Oui, alors clairement, SmackDown passe devant Raw. Hein. C'est maintenant le show numéro 1, le show phare de la WWE. Alors ensuite, on a un match tag team, mais c'est chez les filles. Donc Becky Lynch, hein, elle reste dans le ring. Il y a Charlotte Flair qui arrive. Et elles affrontent la championne de SmackDown. Ah bah si, il y a une championne de SmackDown, c'est Bayley, accompagnée de Sasha Banks.
Coucou et... Bayley, coucou.
Coucou Bayley. Elle paraît qu'elle va affronter Charlotte Flair à Hell in a Cell. Il faut que je fasse attention à ma prononciation de Hell in a Cell, paraît-il. Bon, bah, on a un match classique hein, entre les quatre. Ils connaissent quand même depuis longtemps. Et c'est la victoire de Charlotte Flair qui fait taper la championne avec la figure 8, figure 8, cette prise de soumission là. Elle brise le genou de son adversaire hein, en faisant un petit ponté, comme le faisait pas son papa, mais qu'elle a rajouté à la prise de son papa. Belle victoire donc de Charlotte Flair sur la championne de SmackDown, la pauvre. Est-ce qu'il y a grand chose à dire sur ce match, honnêtement?
Bah écoute, déjà on peut dire que c'était une redite, hein, que là ça fait qu'on a le droit.
Ça fait à peu près 14 fois qu'on le voit celui-là.
Ouais, on a le droit à plusieurs fois à ce match tag team féminin là. Alors la qualité est relativement toujours là, mais la lassitude commence aussi à être là. Hein. J'aimerais qu'on passe un peu à autre chose là-dessus. Et puis, tu vois, parce que du coup, plus ça fait ce mélange Raw, SmackDown, etc. Donc, ça serait bien quand même qu'on ait une division féminine qui vive autrement que par les Force Horsewomen, quoi, tu vois. Et bon, je sais pas, ouais, c'était pas mal.
C'était pas un mauvais match, mais
ouais.
Ça n'avait rien de...
Oui, le match en lui-même était pas mauvais, c'était voilà, moyen plus, quoi.
Disons que c'est sympa pour les 2 millions de téléspectateurs qui n'avaient jamais vu le truc, quoi. Ceux qui sont arrivés en plus. Mais bon. Voilà, nous, ça...
C'est un point important, quoi. C'est-à-dire que là, tu avais, par rapport à d'habitude, depuis des années, tu avais 2 millions de spectateurs en plus. Donc, fatalement, pour eux, il y avait certainement, j'imagine, de la découverte, un attrait un peu particulier. Donc, oui, ce match pouvait intéresser, effectivement, toute cette frange de téléspectateurs.
Ouais. Voilà, je pense que c'est ça qui était visé, hein, plus que les spectateurs de longue date.
Mais est-ce que les spectateurs ont compris que Bayley était la championne de SmackDown? J'en suis pas sûr.
Alors ça, non. Ah, ça, mais c'est pas grave, parce qu'elle va sûrement le perdre dimanche. C'est dimanche, Hell in a Cell.
C'est dimanche, ouais, c'est dimanche soir.
Ouais. Ils n'ont fait aucune construction hein, pour ce pay-per-view, hormis le championnat universel dont on parlera un peu plus tard.
Je crois que pour l'instant, il y a 4 matchs à la carte.
Ouais. Bah écoute, pour une fois, hein, on n'a pas de carton. Ce sera les surprises.
On verra. On en reparlera à la fin de la review.
Erin Andrews, que vous ne connaissez pas, hein, si vous ne regardez pas la Fox, elle fait une interview du champion Kofi Kingston, accompagné de Xavier Woods et Big E, ce qu'on appelle le New Day, en fait, hein, ce trio. Donc, Kofi Kingston nous annonce qu'il va gagner contre Lesnar. Hein, je vous rappelle que Kofi Kingston est le champion de la WWE hein, et ce soir il affronte Brock Lesnar qui s'était fait démonter par Brock Lesnar, Kofi Kingston, hein, il n'y a pas si longtemps. Voilà, il va contredire un peu les pronostics Kofi Kingston et il va gagner ce soir, c'est sûr. C'est vendu, le New Day, ils font un petit peu les pitres, ils gueulent un peu dans tous les sens comme ils font d'habitude. Ça non plus, il n'y a rien à dire sur cette promo, hein. C'est du classique.
Ouais, voilà, on est dans du hyper classique de New Day. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus, quoi? À part qu'on a des frissons et la chair de poule pour le massacre à venir du pauvre Kofi.
Ouais, on voit déjà qu'il a aucune chance. On fait un peu le tour du public, il y a plein de stars, notamment le boxeur Tyson Fury et les Hall of Famer Kurt Angle et Mick Foley qui sont là. On nous avait annoncé plein de stars, hein. Il n'y aura personne ce soir en fait, hormis The Rock. À moins que ce soit prévu pour la semaine prochaine et que j'ai mal compris, mais il me semblait qu'il devait y avoir pléthore de Hall of Famer ce soir. Ensuite, c'est Seth Rollins qui débarque, mais il est interrompu par la Firefly Funhouse de Bray Wyatt, qui va nous faire avec ses petites marionnettes une preview de Hell in a Cell avec le Rambling Rabbit qui va jouer le rôle de Seth Rollins. Et merci le Buzzard qui va en remplacer The Fiend, Bray Wyatt, puisqu'on sait qu'à Hell in a Cell, ça c'est un des matchs qui est annoncé à Hell in a Cell, Seth Rollins défendra son titre contre Bray Wyatt, qui se fait désormais appeler The Fiend quand il est le démon, quand il est déguisé en clown psychopathe. Et donc, bah, merci le Buzzard se fait dévorer par... le Ramblin' Rapid qui se fait dévorer par Merci le Buzzard, évidemment, dans une séquence très violente, hein, où il y a du coton qui vole dans tous les sens. J'étais terrifié. Voilà, Bray Wyatt dans ses œuvres. C'est toujours sympa, là, Firefly and Funhouse, non ?
Ouais, c'est à chaque fois un caméo pas très long. Et voilà, il nous tease le Hell in a Cell de dimanche. Voilà, du grand classique. Je trouve assez marrante en fait la tronche de Seth Rollins à chaque fois, quoi, complètement terrifié.
Ah, il est pas rassuré, hein, le pauvre.
Ah ouais, je suis curieux de savoir comment il va jouer un peu cette affaire dimanche soir à Hell in a Cell, parce que vu la tête de chat apeuré qu'il nous fait depuis 3 semaines, 1 mois là, je suis vraiment curieux de savoir quel genre de réaction il va avoir sur le ring dimanche soir. Ça serait quelque chose que j'observerais avec curiosité.
Ouais, surtout que The Fiend a l'air imbattable, hein, à l'heure actuelle, imprenable. On verra tout ça, Hell in a Cell.
Bon, en même temps, on l'a vu qu'une seule fois dans le ring, hein, The Fiend, hein, véritablement, dans un match, on l'a vu face à Finn Balor et on ne l'a pas revu depuis.
C'est vrai, mais il a quand même attaqué plusieurs personnes, dont Braun Strowman, hein, qui n'a pas pu faire grand-chose contre son ancien mentor, Bray Wyatt.
Ouais, et puis sinon, il a surtout démoli plusieurs vieilles carnes, quoi, voilà.
Aussi.
Sorti de ça.
On achève bien les shows. En parlant de vieilles carnes, il y a Hulk Hogan et...
Ah bah oui.
Qui est en train de s'asseoir, on ne sait pas trop. Ils ont un peu loupé l'arrivée d'Hulk Hogan à la vidéo. Je ne sais pas si c'était fait exprès parce qu'ils ne voulaient pas trop qu'on le voit ou comment que c'était, mais on a juste sa musique, on voit qu'il essaye de s'asseoir, c'est le bordel. Il n'y arrive pas trop. Et on enchaîne donc sur le match champion contre champion. Ce soir, Seth Rollins affronte Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental, toujours accompagné de Sami Zayn, qui ne fera pas grand-chose, hein, ce soir. Alors, il y a une jolie prise au début de Nakamura là, qui se jette sur Rollins, lui monte dessus et puis il fait un Juchikatame. J'ai cru voir le Nakamura du Japon. Hein, si vous avez jamais vu Nakamura catché au Japon, vous voyez cette prise. Et ben, voilà, ce genre de prise, mais sur un match de 20 minutes. Mais bon, c'est tout ce qu'il y aura dans le match. Hein. Après, il revient à son catch habituel, Nakamura, là, très, très caricatural. Et c'est Seth Rollins qui fait le minimum syndical. Ça se fout sur la gueule un bon moment. Et puis, évidemment, les lumières s'éteignent. Bizarrement, Nakamura se retrouve seul dans le ring. Il est complètement apeuré. Rollins, lui, il s'est réfugié en dessous du titantron. Mais ça ne sert à rien. Il se fait quand même attaquer dans le dos par The Fiend, qui lui fait manger ses doigts. Le mandible claw, comme on appelle ça. Et après, il jette Seth Rollins du haut du décor, là, du haut de la passerelle. Le Fiend qui a encore réussi son attaque. Toujours dans cette ambiance très sombre, très dark, là, avec les lumières éteintes, les musiques qui font peur, les zooms, façon XOR. Encore une attaque qui fonctionne de The Fiend.
Ouais, je te félicite pour ta capacité à donner du contenu au match Nakamura-Rollins, parce qu'on peut dire qu'il n'y a quasiment pas eu contenu, ça a duré peut-être 2 minutes, voilà, juste le temps de voir un ou deux moves sympas. C'était un match qui m'intéressait de prime abord, donc ça aurait pu être sympa d'avoir quelques minutes supplémentaires, mais bon, bah voilà, c'est comme ça, hein. Tous les matchs de Seth Rollins ces dernières semaines se terminent par des no contest, par une mandible claw dans la bouche. Et voilà, bah écoute, encore un teasing pour dimanche. Voilà, on se posait la question, je crois, avec Raphaël, Haro, si le Fiend, enfin surtout Raphaël, on se posait la question de savoir si le Fiend, on allait le revoir d'ici là. Moi, j'ai, de mon côté, j'étais quasiment certain qu'il viendrait à SmackDown. Bah voilà, ça s'est passé. Donc le Fiend a fait sa première apparition à la Fox. Apparemment, voilà. Le personnage fonctionne grave, puisqu'il est même invité sur des plateaux télé un peu plus mainstream, Bray Wyatt, américain. Donc apparemment, le personnage est en train d'accrocher le public américain, en tout cas.
Oui, ça peut être effectivement le gros truc de ces prochains mois, hein, Bray Wyatt et The Fiend. Moi, j'aime bien. Hein. Je trouve que ça fonctionne. Le mandible claw, c'est une bonne manière de, comment dire, de le montrer vraiment menaçant, destructeur, sans passer par des déluges de violence. Donc, c'est plutôt, c'est un bon compromis, je trouve. Il fait son effet. Après, c'est peut-être un peu tôt pour l'envoyer directement sur le titre universel. Mais avec la sortie du film du Joker, là, le deuxième mouvement de ça, on est bien dans la mouvance des clowns psychopathes. Donc, autant surfer tout de suite sur la vague. C'est plutôt malin. Après, tout dépend de ce qu'ils vont donner comme match à Hell in a Cell.
Ouais, ça va être le juge de paix, ça va être le match de dimanche.
Ouais, c'est ça. À partir de là, on saura si on est parti sur quelque chose de pas mal ou si ça va exploser en vol. Mais bon, je suis assez confiant quand même. Ils ont l'air d'avoir bossé ça quand même, donc c'est plutôt rassurant.
Ah bah, c'est clairement le personnage le plus travaillé depuis des mois, si c'est pas des années, quoi.
C'est ça. Bon, donc ça, c'était sans surprise hein, quand même, ce passage-là. Et on va enchaîner sur un des gros morceaux de la soirée, Kevin Owens qui affronte Shane McMahon dans un match de l'échelle, sachant que celui qui arrivera à décrocher la manette, eh ben, il garde son boulot, l'autre il est viré comme une merde. Donc, on a un gros match de l'échelle pour un weekly, hein, puisqu'on va avoir quand même les gros spots qu'on aime bien dans ce type de match, avec un beau frog splash de Kevin Owens sur Shane O'Mac qui est allongé sur l'échelle hein, qui est posée entre la barricade et le ring. On a la fameuse descente du coude de Shane O'Mac depuis le coin du ring jusque sur la table des commentateurs où était allongé Kevin Owens. Coast to coast, hein, évidemment. Et puis, Dieu merci, ça se termine par la victoire de Kevin Owens, qui réussit à faire une grosse powerbomb sur Shane O'Mac, pardon, qui était en train d'essayer d'atteindre la mallette. Hein, Owens l'attrape et il lui fait une grosse powerbomb et après il n'a plus qu'à monter en haut de l'échelle. Il récupère la mallette. Il se tape la tête sur la mallette tellement il est content et il redescend, il prend le micro et il lâche un bon, « You're fired » à Shane O'Mac avant de lui placer un dernier stunner pour bonne mesure. Fin donc de la grosse histoire, grosse intrigue, grosse rivalité entre Shane McMahon et Kevin Owens qui était un peu le fil rouge de SmackDown depuis ces derniers mois. Bon, ça reste un match de l'échelle de weekly, hein, évidemment, mais est-ce que c'est suffisamment spectaculaire pour toi pour marquer le coup pour ce début de l'aventure Fox ?
Déjà, j'ai envie de dire ouf, Kevin Owens a gagné. Déjà, ouais, ouais, ça, c'était quand même mon inquiétude principale dans ce match. Après avoir un ladder match en weekly, je pense que ça faisait une paye que c'était pas arrivé un truc pareil. Et donc du coup c'était pas le match était pas mal. J'ai plutôt alors que bon j'aime vraiment pas Shane McMahon entre les cordes, mais pour le coup c'est Kevin Owens qui fait le taf et ça m'a bien rassuré quoi. Après moi je reste perplexe sur le fait que cette rivalité soit finie.
une suite encore.
Totalement perplexe sur le fait que de toute façon Shane McMahon soit viré quoi parce que j'y crois pas une seconde. Donc, écoute, je pense qu'on verra pour la suite, parce que moi, malheureusement, je pense que c'est pas fini. Mais écoute, on verra ce que ça va donner sur la suite. Mais en tout cas, sur juste cet épisode-là, avoir un match comme ça, c'était pas mal. Le KO est vraiment énorme. Enfin, moi, j'aimerais tellement le voir plus haut dans la carte. Je suis tellement dépité depuis des semaines et des semaines. Je n'arrête pas de le dire, hein, de le voir face à Shane McMahon et pas être dans le main event, merde, moi je veux voir KO dans le main event, et du coup, bah, voilà, en tout cas, sur un milieu de show de la Fox, avec toute l'attente qu'il y avait sur ce show-là, voilà, on peut dire qu'ils ont délivré la marchandise.
Voilà, au moins dire ça, c'est comme, bon, Shane O'Mac est quand même spectaculaire quand il fait ses cascades à la con, là.
Ouais, ouais, parce que bah, là, c'est exactement le genre de match qu'il aime, là. C'est exactement. Des matchs à cascade, là, c'est pas du catch, c'est pas du 1 contre 1 traditionnel, là, c'est vraiment du match à cascade. Donc, c'est ce qu'il est, Shane McMahon.
On lui sert la soupe pour ce coup-là. Bon, après, je pense que Kevin Owens, il va peut-être s'orienter vers Monday Night Raw, je pense. Histoire de... d'avoir un peu plus de place pour être en haut de l'affiche. Et peut-être continuer son intrigue avec, Shane et Arrow, quoi.
Ouais, et dans ces... ça pourrait même être une meilleure nouvelle que ça encore. Effectivement, ça serait bien que Kevin Owens, il aille Arrow et puis qu'il n'y ait pas Shane, Arrow. Voilà.
Oui, là, ouais.
Et là, tout s'arrêterait.
Il va revenir, hein, moi.
Ouais. Mais et là, tout s'arrêterait. Et là, je serais le plus heureux des hommes. Parce que si tu veux, dans mon scénario, malheureusement, je pense que c'est pas fini. Mais dans ton scénario, en faisant venir Keo à Raw, effectivement, ça pourrait tout arrêter. Et du coup, j'en serais très satisfait. Et je te donnerais un plus un, mon bon ringside, si jamais.
Ah, depuis le temps que j'attends ça. Ah. Donc, voilà. Bah, on verra tout ça la semaine prochaine. Hein. En tout cas, voilà, on a eu notre petite match spectaculaire de la soirée. On enchaîne ensuite avec c'est 4 contre 4, un match à 8. Alors, c'est assez expéditif. Je crois qu'il n'y a que Braun Strowman qui a droit à une entrée.
Ouais, c'est ça. On voit même pas les entrées de tous les autres. On ne voit que l'entrée du monstre parmi les hommes.
Et alors, s'il y a Braun Strowman dans le match, vous pensez bien qu'il y a quand même du beau monde. Hein, c'est un peu le gratin qui est là ce soir, puisqu'on a The Miz qui fait partie de l'équipe Strowman, et nos amis Davy Machinery, les deux gros bonhommes, Tucker et Otis. Et en face, tout ce qu'il y a de plus méchant dans le roster de la WWE, le vilain AJ Styles, champion US, Randy Orton, The Viper, le leader de la team Orton, hein, qui va aller à Crown Jewel défendre l'honneur de Ric Flair face à l'équipe de Hulk Hogan, dont le capitaine est Seth Rollins. Ça, c'est pour Crown Jewel, bientôt sur vos écrans. Randy Orton est là, et avec lui, les champions de Monday Night Raw, Dolph Ziggler et Robert Roode. Donc, du beau monde pour ce match, qui sera quasi inexistant, hein, le match. Ils font un petit peu n'importe quoi. Il y a un zigzag qui est porté d'entrée de jeu sur The Miz, mais pour rien. Strowman, il va faire le petit train autour du ring histoire de pulvériser tout le monde, et il va, je crois, faire le tomber sur Ziggler, hein, avec son running power slam. Tout ça est assez rapide, mais ce qui est à noter dans ce match, c'est Braun Strowman qui interpelle le boxeur. Alors, son nom, c'est Fury.
Tyson Fury.
Tyson Fury, voilà, comme Mac Tyson. Ça ne doit pas être son vrai nom, ça, à mon avis. Tyson Fury, donc, qui est un gros bébé. Hein, il fait bien ses 2 mètres.
Il fait 2 mètres 06 et 120 kilos.
Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Donc,
ancien champion du monde qui avait battu Vladimir Klitschko, quoi. Et je crois que c'est un gars qui a pas perdu son titre de manière légale, je crois. Enfin, de manière
invaincu, apparemment.
Ouais. Parce qu'il est invaincu. J'ai été vérifié. Il est effectivement invaincu. Mais par contre, son titre a dû être laissé vacant pour, je sais pas, est-ce que c'est pour des histoires de blessures ou un truc comme ça. J'ai pas trouvé l'info. Mais ce type, physiquement, est grave
impressionnant. Hein.
Ah ouais, parce que quand il s'est mis en face de Braun, il y avait pas grand chose à redire, il était au niveau, quoi.
C'est ça. Et donc, ben voilà, Strowman va l'interpeller pendant le match. Hein, il dit, on se menace un peu, un coup de poing parce que, enfin, on montre les poings, hein, façon position de boxeur. Et puis, je sais pas pourquoi, à la fin du ring, les deux commencent à se chauffer vraiment. Et là, il y a Fury qui passe par-dessus la barricade, qui vient essayer de chercher des noises à Strowman. Il est arrêté par la sécurité. Et puis donc, on a un segment classique là du mec qui passe la barricade et qui se fait bloquer par la sécurité. Et c'est parti donc pour une rivalité entre ce Tyson Fury et l'ami Braun Strowman. Et apparemment, ça, c'est aussi prévu pour l'Arabie Saoudite. On a un truc classique de la WWE qui fait venir quelqu'un un peu d'extérieur au monde du catch pour un match de gala, on va dire. Ça nous rappelle le Big Show contre Floyd Mayweather.
Ouais, c'est ça peut approcher un peu de ça. Sauf que là, on est entre big men.
Entre big men. Ça va être chaud pour Strowman, hein, s'il se fait aplatir par le Fury. Je sais pas comment ils vont se démêler de ce truc-là, mais bon.
Enfin, bon, de toute façon, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que voilà un match qui a été complètement escamoté alors qu'il y avait un super beau line-up, moi je trouve. Tu vois, il y avait de quoi, là, on avait de quoi avoir un un match assez, assez sympa, quoi. Et puis, bah voilà, complètement escamoté par ce truc avec Tyson Fury. Bon, c'était, c'est pas mal. Encore une fois, il cherchait encore à mettre un paquet de star power. Quand t'as un champion du monde poids lourd de boxe, voilà, c'est pas pour rien, mais ouais, ça, ils auraient pu attendre un peu, quoi, et puis nous offrir un peu plus de show avec les 8 mecs qui étaient entre les cordes. Bon, ouais, c'est un peu, moi, pour moi, encore une fois, encore un match que j'ai trouvé encore escamoté ce soir. Et qui m'a pas. Voilà. Est-ce que. Alors maintenant, c'est les projections sur la rivalité Fury-Strowman. Bon, bah écoute, à voir. Est-ce que Fury, il vaut tripette entre les cordes en termes de catcheur ? C'est un truc à voir aussi, ça. Hein.
Ouais. Parce que généralement, c'est pas non plus. C'est pas non plus la panacée, hein, quand c'est des mecs comme ça qui viennent de la boxe catcher. Généralement, ça donne des trucs dégueulasses. Donc là, le petit effet est plutôt réussi, mais. Sur le long terme, ça va pas être le truc qu'on va suivre de manière la plus assidue. Effectivement, ils ont pris à contre-pied le public de fans hardcore. Hein. On va pas se mentir parce qu'il y aura pas beaucoup de catch dans la soirée.
Non,
c'est moi. Et on sera là plutôt pour sortir un peu de star power et puis faire le coup de poing. On va voir qu'il y aura d'autres surprises dans la soirée. Mais c'est ouais, le but n'était pas, je pense, finalement de satisfaire les fans de catch pur et dur, mais plutôt de faire de l'événementiel et puis de sortir des grosses surprises et un peu de star power et puis de s'avancer un peu comme ça dans le monde mainstream. C'est visiblement la nouvelle politique depuis qu'on est sur la Fox, qui a toujours été quelque part la politique de la WWE. Mais avançons dans l'émission. On a un autre match, parce qu'il y a quand même du catch, hein, pas croire. Roman Reigns, le Big Dog, il affronte Eric Rowan dans un match des bûcherons. Donc il y a tout le roster de SmackDown qui est là autour du ring. On a par exemple Ricochet, Andrade, les Viking Raiders, The Revival, ils sont tous là, et puis donc on a un match entre Rowan et Roman Reigns. Alors c'est un match de gros bourrin, hein, évidemment. Quand les mecs tombent à l'extérieur, ils sont attaqués par tous les autres catcheurs. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a Daniel Bryan qui est au commentaire avec l'équipe de commentateurs. Alors c'est un duo de commentateurs, hein, SmackDown, Michael Cole et Corey Graves. Et donc Daniel Bryan est là. On sait que Daniel Bryan sera aux côtés de Roman Reigns pour affronter Eric Rowan et Luke Harper à Hell in a Cell. Luke Harper justement qui va intervenir dans le match évidemment à la fin. Il va attaquer Roman Reigns, il va d'abord défoncer un petit peu tous les bûcherons qui sont autour du ring. Il se fait attaquer par Daniel Bryan, il réussit à s'en débarrasser, il attaque Roman Reigns, mais Daniel Bryan revient, il arrive à sécher Roman Reigns, non il arrive à sécher pardon, Luke Harper, et Roman Reigns profite de la confusion puisque Rowan va attaquer Daniel Bryan. Du coup Roman Reigns profite de la confusion pour placer un spear sur Rowan et faire le tomber. C'est la victoire de Roman Reigns pour le coup. On va se serrer la main entre Roman Reigns et Daniel Bryan au grand plaisir du public qui reprend les Yes Chant. Voilà, le face turn définitif de Daniel Bryan, la victoire de Roman Reigns, Luke Harper et Rowan qui sont quand même bookés assez fort. Hein. Ils sont costauds les deux mecs. Il y a Rowan qui fait notamment une sacrée power bomb sur Ali là, qui était dans les bûcherons. Et donc tout ça va se terminer à Hell in a Cell. Ça, c'est quand même un passage qui a permis de construire le pay-per-view. Est-ce que toi, t'es convaincu par tout ça ou
c'est... Écoute, c'était pas mal. Moi, j'ai plutôt bien aimé en fait tout ce match et toute cette partie. Je trouve, moi, le Lumberjack match, ça t'assure toujours un peu de spectacle avec des gros moves. Il y a un énorme strike du Roman Air Big Dog sur quasiment tous les lumberjacks. C'était assez, moi j'ai trouvé ça assez marrant. J'adore moi ces strikes là, c'est con, ouais. Hein, mais c'est con, ouais. Mais ça marche. Enfin, en tout cas auprès de moi ça marche, quoi. Et voilà. Et puis bah quand même le Roman Reigns au gabarit qu'il a, faire faire un vol plané comme ça par-dessus les corps, je trouve ça toujours assez spectaculaire. Voilà, comme tu l'as dit, là, le face turn total et brutal et fatal de Daniel Bryan. Ça nous annonce, je pense, un bon match à Hell in a Cell, un bon tag team, là, ouais. Là, entre les...
Ouais,
entre...
ça, par contre, j'en entends pas mal hein, de ce match-là.
Ouais, bah, moi aussi, hein, moi, je suis assez friand de ce tag team-là. C'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et pas loin d'être... c'est certainement le segment sur lequel j'ai été le plus enthousiaste durant ce SmackDown. Et voilà, Daniel Bryan en plus j'aime bien parce qu'il est intéressant quand il est aux commentaires. Voilà, ce gars-là au micro il est bon de toute façon, et même aux commentaires c'est bien. Donc tu l'as signalé, ils sont plus que deux à derrière la table des commentateurs américains. Rest in peace René Young et rest in peace Saxton, rest in peace Tom Phillips. Il y a eu du dégât, hein, il y a eu du dégât aux commentaires hein, sur la semaine. Là, Et puis malheureusement, on a le retour de Lawler à Raw, donc et quelle horreur. Et puis dès son retour, hein, il n'a pas attendu hein, pour nous faire un truc tout pourri, quoi. Donc il a été catastrophique lundi, quoi. Et encore, je suis gentil quand j'utilise le mot catastrophique. C'est pour pas être grossier, peuple de catch-up, pour rester PG. Mais voilà, mais moi j'ai bien aimé ce match. Écoute, c'était même un peu trop court, encore une fois. J'ai bien aimé l'apparition de Luke. J'adore, il arrive, c'est marrant. Et tu trouves pas qu'il a fondu physiquement?
Ouais, je trouve aussi. Ouais.
Il a perdu des bras et tout, quoi. Mais,
c'est ça qui est dommage un peu.
Ouais, c'est bizarre hein, ce changement physique.
Bah, il a été grièvement, il a été blessé pendant un long moment. Hein, donc ça joue ça hein, quand t'es blessé que tu peux pas soulever de la fonte aussi souvent que tu le peux. Voilà, ça se sent tout de suite sur le physique, mais c'est bon, c'est quelque chose qu'il peut récupérer par la suite. Ça.
Oui, il récupérera par la suite. Et puis de toute façon, je sais pas si tu as entendu pour parler un peu des faire un peu le gala ou le voici catch, mais
il a couché avec Lana.
Harper. Non mais Harper, il se plaint beaucoup de son traitement, etc. Il n'a pas hésité à critiquer ouvertement la WWE il y a très peu de temps, là. Et de toute façon, moi, j'ai du mal à envisager son avenir encore sur le long terme à la WWE. M'étonnerait pas qu'il apparaisse à la All Elite Wrestling d'ici quelques temps.
Oh, je sais pas. Ces petites crises-là, ça se corrige facilement avec un gros chèque.
Hein. Ouais. Il arrive en fin de contrat. On en
ouais,
parle.
C'est ce qu'il se
dit. Tu vois, mais moi, je pense que Luke Harper va partir de la WWE.
Alors, moi, je suis vachement sceptique parce qu'on disait ça de, Ziggler, on disait ça de Sasha Banks, on disait ça du Revival, des Uso. Au final, ils sont tous là encore. Mais à voir. En tout cas, là, il est plutôt bien placé sur la carte Harper. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Rowan. J'ai pas eu trop l'occasion d'en parler, mais c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec ce mec qui est quand même une sacrée baraque. Qui tient plutôt bien le micro. Voilà, donc rendez-vous à Hell in a Cell pour sûrement un match des plus spectaculaires.
Yes.
Dites-toi qu'on arrive au main event, dis donc. C'est fou, ça. On n'est pas à Monday Night Raw, hein, c'est dans pas 3 heures.
Bah, donc... Pour l'instant, ça, c'était surprenant parce que tous les reports avaient l'air de dire que ça allait s'orienter sur un show de 3 heures. Donc là, pour le premier, on a 2 heures. On verra s'il y a... Après, je pense que la semaine du draft là va être assez décisive. Donc, du coup, elle commence à SmackDown vendredi prochain. Je pense que cette semaine-là va apporter son lot de réponses à pas mal de choses.
Ouais. Donc... Bah, après, moi, de ce que j'avais compris sur la Fox, le truc, c'est qu'après SmackDown, il y a une émission de type news. Genre comme le journal télévisé, un espèce de rendez-vous un peu sacralisé qui ne peuvent pas bouger. Donc, d'après ce que j'avais compris, il y avait peu de chances que ça passe à 3 heures, à moins qu'il fasse une heure avant, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, pour moi, de ce que j'ai comme information, on resterait à ce format-là hein, sur SmackDown. Mais,
d'accord. À voir pour la suite. C'est pas plus mal, parce que c'est déjà...
Ah oui, bah carrément, ouais.
Du fait que ça soit passé le vendredi soir, c'est déjà quelque chose de complexe. Alors si en plus, il nous avait mis 3 heures, là, c'est clair que... Donc du coup, ça serait plutôt une bonne nouvelle si ça reste à 2 heures.
Exactement. Allez, le main event. On vous l'a promis, c'est un match de championnat qui oppose Kofi Kingston à Brock Lesnar. Toujours accompagné de Paul Heyman, hein, Brock Lesnar. C'est parti pour le match, à peu près 7 secondes de match. Hein. Kofi Kingston se jette sur Brock Lesnar Et donc Brock Lesnar lui porte un F5, victoire de Brock Lesnar, tombé de 3 directement. Il n'a rien fait, hein, Kofi Kingston. Là, le temps que j'ai fait le résumé, le match était déjà fini. Voilà, Brock Lesnar triomphant, Kofi Kingston humilié. Mais tout ça n'est pas fini, puisqu'il y a la musique de Rey Mysterio qui retentit. On vous rappelle que Brock Lesnar a martyrisé non seulement Rey Mysterio à Monday Night Raw, mais également son fils Dominique, qui a dû partir en ambulance. Il a été laminé. Je vous invite à écouter, hein, notre review de Monday Night Raw, qui est disponible déjà, hein, un peu partout, tout comme notre review par mon bon Chris d'ailleurs de NXT. Tout ça, c'est disponible. N'hésitez pas à aller écouter ça pour avoir tout l'éclaircissement sur cette rivalité entre Rey Mysterio et Brock Lesnar. Donc la musique de Rey Mysterio retentit, on le voit débarquer, mais il a le bras un petit peu emballé comme ça, hein, un peu dans le plâtre. Il a pas l'air d'être en condition pour se battre, Mysterio, mais il y a un gros bonhomme avec lui. Alors on se dit, c'est quoi, c'est Dominique, il est aussi costaud que ça, on n'avait pas remarqué, mais non, c'est pas Dominique. C'est rien moins que Ken Velasquez, l'ancien champion de MMA, qui avait notamment fait tomber ce même Brock Lesnar. Il avait vaincu, pris la ceinture de l'UFC, Ultimate Fighting Championship. Ken Velasquez, qui a démarré une carrière de catcheur, hein, si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe ailleurs qu'à la WWE, il a bossé à la AAA, la fédération mexicaine, la plus grosse fédération mexicaine. Il a catché notamment à Triple Mania, qui est l'équivalent du WrestleMania pour la AAA, pour le Mexique. Et il a catché également au Madison Square Garden, là, quand la AAA a fait son show tout récemment. Donc c'est ce gros bonhomme Ken Velasquez qui débarque et qui fait peur à Brock Lesnar. Brock Lesnar reste quand même timidement dans le ring avec sa ceinture. Velasquez se jette sur lui, il le plaque au sol. Il commence à faire un beatdown, un coup de poing sur Lesnar, qui essaye de se défendre timidement. Lesnar réussit à s'échapper. Il se retrouve sous le petit tronc. Il n'emmène pas large. L'ami Paul Heyman qui essaye de le regonfler à bloc. Lesnar va faire mine de revenir au ring et puis il va faire la classique, hein, où finalement il se fout de sa gueule et il repart. Et on reste avec Rey Mysterio et son pote Velasquez dans le ring. Et voilà, grosse, grosse, grosse surprise pour cette fan show, l'arrivée de Ken Velasquez à SmackDown. Les liens entre le MMA et... WWE qui se renforce encore. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Bah écoute, déjà on peut parler de l'enterrement définitif de Kofi Kingston. Voilà, la Kofi Mania s'est arrêtée en 8 secondes.
Écrasons une larme pour Kofi.
Franchement, je suis pas loin, moi en tout cas, d'avoir pensé que c'était honteux, quoi. Pas le fait que Brock Lesnar gagne le titre, etc., parce que pour moi c'était de toute façon attendu. Je m'attendais à un écartèlement en règle, mais pour le premier show de la Fox de SmackDown, pour moi c'est du foutage de gueule intégral. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'espérais quand même, tu vois, une petite résistance de la part du champion et qu'il finisse un peu en beauté ce run. Qu'on termine le run de Kofi, oui, bien sûr, moi ça me pose aucun problème. Kofi, ça n'a pas été le champion du monde le plus historique et le plus charismatique de l'histoire de la WWE. Donc j'ai aucun problème avec le fait que Kofi soit enterré. Mais ces 8 secondes, franchement, ça rime à rien. Surtout que, franchement, il faut être dans la cohérence. Kofi, ça fait des mois et des mois qu'il nous est vendu comme un champion valeureux. Il se bat, il affronte tout le monde. Il a eu des matchs longs, des matchs moins longs, des matchs avec stipulation. Voilà, il était tout à fait apte à tenir plus qu'un F5 face à Brock Lesnar. Tu vois, moi, dans ma suspension consentie d'incrédulité, là, c'est quand même très, 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 très complexe, quoi. Donc, moi, je veux bien que Lesnar nous soit proposé comme un monstre indestructible, et puis qu'il a besoin, d'ailleurs, de retrouver de ça, parce que, mine de rien, il a été battu par Seth Rollins et tout. Donc, il avait besoin de retrouver un peu d'aura destructrice. Donc, moi, encore une fois, encore un aspect sur lequel je suis tout à fait d'accord. Mais on aurait pu nous donner... Pour un show pareil qui nous a été vendu de telle manière, on aurait pu nous donner un peu plus de catch dans ce main event. Donc voilà, ça c'est pour ma partie match. Pour ma partie Cain Velasquez, écoute, moi je suis la Triple A, je suis quelques fédés mexicaines, j'ai vu son run à la Triple A, j'ai vu le match que tu as parlé au Madison Square Garden, j'ai vu Triple Mania, vous voyez les gens, j'en ai vu des choses. Cain Velasquez, je peux pas te dire franchement que j'ai été super ébloui par lui dans le ring, dans ce que j'ai vu. Bon, en même temps, il n'y a pas eu de chance, le Triple Mania de cette année a été d'un niveau exécrable. Pour le coup, le show au Madison Square Garden a été quasiment de meilleure qualité que le Triple Mania. Bon, Cain Velasquez, moi je le trouve, alors ça encore une fois un avis personnel, et de ce que j'ai vu là vendredi, pas du tout en forme, mais alors pas du tout quoi. On sent que depuis qu'il est dans le catch, il se dit ouais, je vais moins me prendre la tête qu'à l'MMA, et que sur son nom il suffit. Alors du coup, il est assez, c'est un type qui est assez mainstream, qui est une grosse star au Mexique, il faut bien le dire, hein. Champion du monde de l'UFC qui après décide d'aller dans la lucha au Mexique, c'est quelque chose qui est respecté, ça, très respecté même. Donc c'est une grosse star du côté du Mexique. Et du coup, ça pose une question, c'est est-ce que la WWE aurait enfin trouvé sa star mexicaine latino qu'elle attend depuis des années et des années et des années? C'est peut-être ça la réponse. Et quand même, pour mettre un point final à mon analyse, on se retrouve quand même, pour le titre de SmackDown, on se retrouve avec deux anciens mecs de l'UFC qui vont se disputer le titre poids lourd de la WWE. C'est assez marrant, en fait. Et est-ce que ça va donner quelque chose d'intéressant? Voilà, la seule interaction physique qu'il y a eu, ça a été le ground and pound de Cain Velasquez là, sur Brock Lesnar. Brock Lesnar, c'est Cain Velasquez. Voilà, il a un background avec lui puisque bah, il s'est fait démonter par le Mexicain à l'UFC. Voilà. J'ai quand même hormis la grosse surprise de voir arriver le Mexicain, moi je trouve que ce main event il n'était pas à la hauteur de tout ce qui a été annoncé.
Ouais, la pilule du squash de Kofi Kingston a du mal à passer hein, pour beaucoup. Moi c'est vrai qu'on aurait pu quand même avoir un petit semblant de match maintenant. Voilà, moi, le règne de Kofi Kingston, il ne m'a vraiment pas convaincu. Tu te retrouves quand même dans le ring avec un monstre comme Brock Lesnar et en face, Kofi Kingston, qui est quasiment un poids léger. Je peux comprendre qu'on ait envie vraiment de mettre en lumière le Brock Lesnar à nouveau au prix de Kofi Kingston, qui de toute façon a fait son temps. Maintenant, c'est sûr qu'on aurait pu avoir un match un peu plus copieux que ce qu'on a eu là. Cain Velasquez évidemment peut-être bien la superstar latino qui recherche depuis des années hein, pour l'ouverture sur le marché mexicain. Moi j'étais surpris de son arrivée. Ça a plutôt fonctionné. J'étais pas surpris plus que ça de voir Kofi Kingston se faire squasher. Après toute la question est de savoir s'ils ont signé Velasquez pour un moment ou s'il va rester là juste pour Crown Jewel, parce que le match sera à Crown Jewel hein, en Arabie Saoudite. Alors soit c'est un gros coup d'esbrouf pour avoir un match de prestige chez les Saoudiens, soit on a quelque chose d'un peu plus consistant qui est prévu pour l'avenir. L'un dans l'autre, je suis à la fois perplexe et excité. Moi j'aime bien qu'on parte comme ça sur des trucs qu'on... J'aime bien être pris à contre-pied. Voilà, donc c'est pour moi, c'est plutôt intéressant de voir quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a quand même les guides, qui est... Alors d'accord, il est un peu out of shape, Cain Velasquez, mais c'est quand même un gros bébé, sacré monstre, et je suis curieux de voir ce que ça va donner dans le ring. Et c'est des choses, je trouve, qui sont un peu plus crédibles, un peu plus legit, comme on dit, que ce qu'on a vu ces derniers mois là avec Kofi Kingston. Pour moi, ça restait de toute façon un mid-carder qui était là pour faire l'intérim, quoi. Alors, il y a eu un beau moment à WrestleMania, je suis d'accord, mais après, tout le reste, on sentait qu'on le faisait gagner, voilà, que c'était scénarisé. Et là, on va partir sur un truc... Il y a du suspense, on ne sait pas ce qui va se passer entre Velasquez et qui c'est qui peut gagner. Ça change un peu la donne, je trouve que c'est plutôt pas plus mal. Après, c'est sûr que voilà, si on est attaché à Kofi Kingston, Si on recherchait le beau catch ce soir, c'est pas ce qu'on a eu, hein, ça c'est sûr. On a eu un squash qui était tout à l'honneur de Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, c'est sûr qu'on lui sert la soupe plus souvent qu'à son tour. Donc ouais, je peux comprendre qu'on termine le show en grinçant des dents. Surtout qu'il n'y a pas eu de 205 Live derrière, hein, pour ceux qui aiment bien voir les cruisers.
Ouais,
on n'a même pas eu de 205.
Ça a été annulé purement et simplement.
Ouais, alors ça, c'est une histoire, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on part sur une nouvelle intrigue qui est quand même une nouvelle direction qui est quand même plutôt intéressante. Il y a du star power. Ça a fonctionné au niveau de l'audimat. Et on a un Hell in a Cell qui s'approche, qui n'est pas du tout booké. Ça, c'est quand même bizarre, quand même. Qu'est-ce qu'on a comme match, alors, pour ce Hell in a Cell ?
Bah, écoute, on a le titre universel.
Ouais.
Charlotte versus Bayley. On a le tag team Rowan-Bryan versus Harper-Rowan. Ça fait 3.
Et je crois qu'il n'y a pas un Cédric Alexander.
Il y a peut-être un Cédric Alexander et Jestize, le numéro 3 ou numéro 4 ou numéro 5. Et voilà.
Et ça fait la blague.
Et je vais dire que même le Cédric Alexander et Jestai, je suis même pas sûr et certain qu'il ait été véritablement booké ce match, quoi.
Donc ouais, non. Il manque quatre matchs. Je sais plus c'est quoi.
Ouais. Ah si, il manque Sasha Becky.
Ouais, voilà, Sasha Becky. Non, c'est ça les 4 matchs. Il y a pas d'Alexander Jestai.
Pas d'Alexander Styles, ouais.
Et les 2 matchs féminins et. Le championnat universel et le match tag team. Donc, le championnat universel, c'est The Fiend contre Seth Rollins. Donc, ça devrait être réussi, on espère. Qui c'est que tu donnerais gagnant, toi ?
Ah, là, t'es dans les pronos d'Hell in a Cell. Là, moi, je donne The Fiend. Tu me diras, il n'y a que 4 matchs. Alors. D'ailleurs, au passage, je dis juste encore un petit mot, comme d'habitude, mais la tag team division à SmackDown, comme d'habitude, elle a totalement disparu. Hein. Là, il y a... C'est, voilà.
Une division tag team à SmackDown.
Ouais. Ah, il y a une championne féminine à SmackDown. Ah, ouais.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Bon, ouais, écoute, pour les pronos, je vais te donner The Fiend.
The Fiend ? Ouais, soyons fous, il faut qu'il gagne. Ouais. Allez, The Fiend, il faut que ça gagne. On veut le voir débarquer avec la ceinture dans le noir, comme ça. Et Seth Rollins qui pleure. Rowan Harper contre Reigns et Bryan.
Victoire par disqualification de Reigns et Bryan. Un énorme tabassage en règle par les deux anciens de la Wyatt Family.
Ouais. J'ai du mal à voir perdre une tag team Reigns.
Ouais.
Bryan quand même. C'est sûrement le match de la soirée, à mon avis, ce truc-là.
Ouais, ça s'annonce être vachement bien.
Ouais. Et donc, après, on a Charlotte contre Bayley. Moi, je dirais Charlotte.
Ouais. Là, j'hésite en fait. Hein.
Elle a déjà perdu contre Bayley.
Ouais, avec la Fox et tout. Ouais, non, ils vont avoir besoin d'une championne. Et puis, ouais, Charlotte, allez, vas-y, je te suis. Charlotte.
Allez, Charlotte. Et donc Becky Lynch contre
Banks. Ça sera son 10e titre
à Charlotte, ouais.
Ça va être un truc de fou, ça. Si c'est son 10e titre, c'est énorme. C'est énorme. Sasha Becky. Hein, grosse hésitation. Mais j'aurais eu plus d'hésitation s'il n'y avait pas eu le segment de SmackDown, justement. Parce que là, Becky, elle est présentée comme tellement la patronne. Ouais. Mais en même temps, justement, elle a été amenée à SmackDown et peut-être que ça lui tease un draft. Et ben, je vais donner Sasha.
Ouais, j'ai envie de donner Sasha Banks aussi. Sasha Banks qui part à Raw et Becky Lynch qui arrive à SmackDown.
On a fait les promos d'Hell in a Cell. 4 matchs, incroyable. C'est même pas un takeover.
La frustration pour les fans, hein. On n'a même plus le droit à un pay-per-view avec une carte où on sait ce qui va se passer. Alors, je ne vous dis pas, quand on fait des podcasts où on essaie d'avoir du contenu, bravo. Merci la WWE. Voilà, on a fait le tour. Il va falloir passer au mot de la fin. Il faut donner une note. Un top, un flop.
Yes. Alors, mon flop, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a eu tellement de matchs escamotés et que enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de faux rythme dans ce truc-là. Je sais pas, c'était bizarre. Ça manquait d'intensité.
C'était paillettes, c'est tout. Ils ont fait un truc mainstream. Ouais, on essaie de taper sur les fans de l'UFC, du vrai sport. Avec au côté Danse avec les stars, comme ça.
Ouais, c'était strass, c'est pas effectivement. Mais bon, du coup, mon flop, je vais le donner au match à 8 avec le truc de Tyson Fury. Franchement, ça aurait pu être un match sympa auquel ils auraient pu donner 10 minutes avec des bonnes interactions. Il y avait un beau line-up et en fait, ça a été gâché, ça a été escamoté. Donc, je vais lui donner mon flop. Voilà. Ouais. Mon top, j'hésitais entre deux. J'ai bien envie de le donner parce que c'est vrai, il y a eu des surprises, il y a eu machin, il y a eu quelques noms et tout et tout. Le ladder match, parce que c'était un match en weekly, c'était pas mal. Mais du coup, mon top, je vais le donner au Lumberjack match entre Roman Reigns et Eric Rowan. Ça a été le moment où j'ai trouvé le plus dense et où il y a eu le plus d'éclat et où il y a eu le plus de catch de toute la soirée. Donc je vais le donner à Roman Reigns et Eric Rowan. Et ma note, vous allez peut-être être surpris. Enfin, si vous avez écouté SmackDown la semaine dernière, on a mis des notes catastrophiques déjà. Et là, je vais à peine remonter le niveau parce que j'ai pas été ébloui par ce que j'ai vu vendredi soir. Et je vais donner que la moyenne. Je vais donner un
2,5. Je m'attendais à ce que tu sois plus méchant que ça.
Ah ouais, encore. Tu vois, déjà que la moyenne, hein, déjà, pour moi, c'est déjà triste.
Ouais, surtout pour l'arrivée sur la Fox.
En plus, ouais. Et puis avec tout ce qui était annoncé, avec tout le gros gâteau qui devait être un truc énorme à dévorer et en fait qui s'est transformé en une viennoiserie, quoi.
C'est vrai, c'est une viennoiserie.
Qu'on avale en 30 secondes en sortant de la boulangerie, quoi.
Voilà, c'est une chocolatine ou un pain au chocolat, suivant où vous habitez en France. Je te rejoins pour les tops et les flops, hein. J'aurais mis les mêmes que toi, c'est-à-dire Roman Reigns contre Rowan, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans cette soirée, hormis l'arrivée de Ken Velasquez. Mais bon, comme ça suit un squash assez terrible de Kofi Kingston, c'est difficile de donner le top à ce segment-là. Même si je suis quand même bien content de revoir Brock Lesnar en champion, hein, contrairement à beaucoup de fans, j'ai envie de dire, enfin du moins une partie des fans. Donc voilà, respect à Roman Reigns, Daniel Bryan, Rowan et Harper. Et puis tous les bûcherons qui étaient là autour du ring. Et le flop, effectivement, ce match à 8 là, qui a été complètement escamoté. Pas d'entrée pour présenter un petit peu le roster. Ça, c'est quand même pas terrible. On n'a pas vu de star, mais on en a vu quand même. Hein. Il y avait Trish Stratus et Lita qui étaient là chez les spectateurs. Et Goldberg et Marc-Henri aussi pendant le match de les stars. Mais ils étaient vraiment juste dans le public et on a fait un passage de caméra sur eux. J'ai trouvé que la réalisation était parfois un petit peu maladroite, parce que ce que tu en as pensé, effectivement on sentait que c'était plus les mêmes mouvements de caméra qu'à l'habitude. Deux trois passages où ils sont un peu loupés, hein. Alors je sais pas s'ils ont des nouvelles équipes techniques, mais il me semblait que c'est la WWE qui a ses équipes techniques, donc je suis un petit peu perplexe, mais il y a dû avoir effectivement des modifications du fait du changement de décor, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, ma note, moi je vais mettre 3. C'est pas énorme pour un SmackDown historique, là, comme on était censé avoir. Mais bon, c'est toujours intéressant, je trouve, de les voir partir sur des choses qu'on n'attend pas. Même si au final, on n'a pas eu vraiment ce qu'on voulait. Écoute, on a fait le tour. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre review de Raw et d'NXT, c'est en ligne. Chris, merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi, Inside.
Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Alors, vous nous trouvez sur YouTube, sur PodCloud, sur toutes les plateformes où on peut écouter des podcasts. On est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram aussi, @catchupcdc. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis je vous dis à très bientôt, hein. On aura le débrief de Hell in a Cell et puis les débriefs de Monday Night Raw. de NXT, de SmackDown. Tout ça très très bientôt. Il faut vous abonner, il faut cocher sur la petite cloche pour pouvoir être averti dès que ça sort. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon bon Chris?
Non, tout va bien, impeccable. J'attends Hell in a Cell maintenant. Je vais regarder ça avec curiosité et surtout le seul attrait finalement qu'il va y avoir dans ce pay-per-view, hormis les quatre matchs annoncés, c'est justement de voir avec quel match ils vont remplir le pay-per-view.
C'est ça, ça va être le pay-per-view de toutes les surprises.
Exactement. Et ça change, c'est pas si mal que ça, quelque part en soi. D'habitude, entre 9 et 12 matchs annoncés, et là, on en a que 4. Donc finalement, on va ouvrir le... Ça va être, pour la première fois depuis longtemps, on va ouvrir un pay-per-view en se disant « Ah tiens, qu'est-ce qui va se passer là ?»
Exactement, exactement. Bah ouais, moi je trouve ça plutôt cool. Une fois de temps en temps, c'est pas trop mal. Voilà, bah on se retrouve la semaine prochaine pour le draft. On va enfin savoir qui va où, comment et quand. Voilà, allez, bonne semaine les amis, ciao ciao.
Salut Ringsal, salut peuple de catch-up.